sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Gabriel De Breuil, chancelier de l'Institut de France, a ouvert la séance interacadémique exceptionnelle du 1er mars 2011. Cette séance, qui avait pour thème « Les nouveaux défis de l'éducation », a évoqué la question de l'éducation et de la transmission des savoirs. Canal Académie vous fait entrer sous la coupole.
Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, monsieur le sénateur, monsieur le grand chancelier de la Légion d'honneur, mesdames et messieurs les secrétaires perpétuels, mes chers confrères, mesdames, messieurs. Notre pays a longtemps bénéficié d'une réputation enviée et méritée en matière d'éducation. Il disposait de générations nombreuses d'hommes et de femmes excellemment formés dans les métiers, les entreprises, les écoles, les laboratoires. À l'avant-dernier siècle, un système d'éducation rénové s'était déployé dans un ordre majestueux. Généralisation de l'enseignement primaire, développement de l'enseignement secondaire, essor brillant de l'éloquence universitaire, de l'érudition, de la création littéraire. L'éclat de notre 19e siècle doit beaucoup à la qualité de notre éducation. La nation assurait alors la formation de ses enfants, mais aussi celle de nombreux jeunes étrangers, et peuplait de ses meilleurs sujets le cosmopolitisme triomphant de l'Occident. Ce succès de civilisation n'a pas disparu, il en subsiste d'imposants restes aujourd'hui, il a tendance à se dissoudre progressivement. Le charme s'est rompu, non pas à une date donnée, ni en France seulement, mais notre système d'éducation ne figure plus au tableau d'honneur des nations. Depuis un demi-siècle, les avertissements les plus autorisés et les plus fermes n'ont pas manqué. Il a sans doute fallu une enquête internationale de plus, la disparition d'un grand savant visionnaire, pour que l'Académie des sciences décide de prolonger l'hommage solennel à Georges Charpak d'un véritable cri d'alarme. Elle n'a pas eu de peine à convaincre l'Académie française et l'Académie des sciences morales et politiques de joindre leur voix à la sienne, ni Monsieur le ministre de l'Éducation nationale d'honorer cette séance de sa présence, ni les hauts responsables de l'éducation et de l'enseignement supérieur de se joindre à nous pour examiner avec nous les nouveaux défis de l'éducation. Les défis de l'éducation semblent se renouveler moins qu'ils ne s'accumulent. À l'époque où le service de la nation disparaît, où se relâchent les disciplines familiales, quelle est la mission essentielle de l'école, sas devenu unique par lequel transite toute la jeunesse de la nation? Est-ce le principal lieu de vie du jeune âge, avec le maximum d'enrichissements individuels et optionnels, ou bien principalement le temps social pour apprendre? D'où les débats sur les rythmes scolaires, les horaires d'enseignement, le nombre des élèves, leurs relations avec les professeurs, mais aussi quelle performance collective assigner à ce vaste ensemble? D'où les questions de l'évaluation, de l'orientation, du redoublement, des passerelles. Ce bref inventaire des défis aurait de quoi décourager. Pour les surmonter tous, il faudrait être au moins Charlemagne. Mais le diagnostic est posé. Les esprits ont évolué. Le monde politique est préparé. Le gouvernement avance des solutions et veut bien entendre nos réflexions. Écoutons donc nos confrères. Nous allons entendre M. Xavier Darcos, ancien ministre, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, M. Pierre Léna, membre de l'Académie des sciences, et M. Michel Serres de l'Académie française. Écoutons-les. Ils sont chacun grands experts en éducation, grands témoins des mouvements des sociétés, grands acteurs de la transformation qui s'opère sous nos yeux. Il se pourrait que leurs paroles nous inspirent des pensées neuves, moins sombres, que celles auxquelles une opinion trop agitée depuis quelques années nous a accoutumés.
Merci.
La parole est à Monsieur Xavier Darcos pour son discours intitulé « École et nation ».
Monsieur le ministre, mes chers confrères, mesdames et messieurs, investi du périlleux honneur de la parole publique et pour la première fois sous cette coupole dans mes fonctions de secrétaire perpétuel, je suis heureux de pouvoir m'exprimer sur le sujet qui me tient le plus à cœur et auquel j'ai consacré l'essentiel de ma carrière, l'école de la République. Mais au moment de commencer ce discours, je ressens la nécessité d'invoquer les noms de deux orateurs, parmi les plus grands que l'histoire ait connus. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, un éditeur avisé demanda à Georges Clemenceau, dont l'éloge de l'éloquence n'était plus à faire, d'écrire une biographie de Démosthène, le modèle de l'art oratoire de la Grèce antique. L'Athénien avait mis son verbe au service de la cité pour l'appeler à résister face à l'envahisseur macédonien. Il était facile de faire le lien avec la Grande Guerre. Certes, Démosthène avait échoué, mais il restait une référence et Clémenceau était en quelque sorte un Démosthène qui avait réussi. Relire aujourd'hui ce petit livre est du plus grand intérêt. Démosthène venait de loin, desservi dans sa jeunesse par une difficulté d'élocution. Il l'avait surmonté, dit-on, en s'obligeant à parler avec des cailloux dans la bouche. On a fait mieux depuis. L'orthophonie en était, si j'ose dire, à ses balbutiements. Devenu le redoutable maître du verbe politique, il consacra son talent à tenter de mobiliser les Athéniens menacés par le roi Philippe. De l'échec même de ce génie rhétorique, dont la division des Grecs était seule cause, Clémenceau tirait une grande leçon pour notre temps. La vérité, écrivait-il, est que ces hommes qui avaient tant de raisons de serrer les rangs, de s'unir en vue de se consacrer à l'œuvre commune des libérations de l'intelligence, mettaient au-dessus de tout le plaisir de se massacrer. Pour tout dire d'un mot, ces Hélènes, si finement intellectualisés, n'eurent pas le sentiment de la grande patrie. Ainsi, la Grèce avait la démocratie, elle avait l'intelligence, pourtant, elle était vouée à être vaincue, parce qu'elle ignorait les liens qui unissent une nation. Comparaison n'est pas raison, me direz-vous, car la France d'aujourd'hui n'est pas la France de Clémenceau, et encore moins l'Athènes de Démosthène, et vous aurez raison. Pourtant, je crois que la leçon demeure forte, puissante, gênante. Il ne suffit pas d'avoir la démocratie. Si les cohésions morales et politiques sont insuffisantes, alors la société est condamnée à devenir une poussière d'individus désemparés. Or, le français est français par volonté, parce qu'il le désire ou parce qu'il l'a choisi. Renan avait placé cette spécificité au centre de sa célèbre conférence « Qu'est-ce qu'une nation ?» prononcée à la Sorbonne en 1882. La France, à ses yeux, se fonde sur une conception élective et non pas ethnique de la nation. Elle est moins une origine qu'un projet, un creuset où fusionnent les différences et les convictions privées. Ce souci d'intégration dans notre espace républicain, dans une communauté civique, a conduit notre modèle politique à adopter un principe simple. Devenir français, c'est devenir citoyen français. Il faut donc susciter, entretenir, transmettre les ferments d'unité. Tel est l'enjeu premier de la nation, et c'est l'école qui s'en charge. École et nation. La seconde ne peut vivre sans la première, car la première est le lieu où s'apprend l'unité de la seconde, ce que nous avons en commun, ce que nous voulons faire en commun. École et nation, d'ailleurs, entretiennent des rapports passionnels. On a toujours l'impression qu'il y a dans notre pays 65 millions de spécialistes de l'école, un nombre en constante augmentation grâce à la bonne tenue de notre démographie. Être français, c'est bien naturel, c'est vouloir la scolarité de nos enfants, c'est vouloir conjurer l'angoisse du futur, dans un temps où le partage du travail se complique. Pourtant, notre pays souffre de la difficulté de débattre sur l'école sans tomber dans les idées reçues, dans les caricatures. Les innombrables livres sur l'école, quasi tous dénonciateurs, esquivent souvent les solutions. La passion s'y rencontre plus que la raison. Et c'est pourtant de cette dernière, de la raison, que nous avons le plus besoin. Que de textes, que de blogs, j'ai pu lire, qui répandent une théorie du complot, qui relèvent presque de la pensée magique. Quelque part, des méchants, monsieur le ministre, ourdissent la décadence de l'école. Qui sont-ils? Pourquoi le voudraient-ils? Pourquoi prépartir l'échec des générations futures? On ne sait. On ne sait seulement qu'il faut leur résister, qu'il faut jeter des anathèmes et qu'il faut ainsi que la République soit sauvée. Tant d'incantations, tant d'imprécations laissent peu de place aux opinions raisonnables. Mais ce débat passionnel possède au moins un avantage. Il montre que nous avons tous l'école en partage. Rien ne serait pire que l'indifférence, et à tout prendre, ce débat, même soumis à la tyrannie des invectives et des simplismes, est certainement un signe d'unité, même paradoxal. École et nation entretiennent des liens passionnels, parce que la première est le miroir de la seconde. L'école nous renvoie l'image de notre société, et surtout de ses blessures. Les soubresauts de la vie sociale y laissent leurs répliques. Discrimination, intégration, violence, crise de l'autorité. Même les événements internationaux tourmentent nos établissements, notamment les événements du Proche-Orient qui peuvent agiter des esprits. Il n'est pas question ici d'idéaliser un certain passé, une certaine période de notre histoire où école et nation auraient entretenu des relations apaisées et fusionnelles. Le sujet a toujours divisé. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ce lien s'oblitère. Chacun en connaît les causes. D'un côté, le vieux nationalisme, en France comme ailleurs, est en train de dériver vers une sorte de mouvement d'autodéfense de citoyens effrayés par l'interdépendance mondiale. Tout à l'opposé, les identités communautaires se développent, sans toujours se soucier de rester compatible avec les valeurs communes de la République. Et même l'universalisme, suscité par la mondialisation des techniques et de la communication, n'est pas sans risque. Les citoyens qui s'habituent à la culture du net et de l'hyperlien, comme on dit aujourd'hui, se désintéressent de la proximité au profit du mondial. Rien n'est plus néfaste que de substituer aux êtres particuliers l'abstraction de l'humanité, même sous la forme d'un humanisme unanimement partagé. Rousseau s'en irritait de façon prémonitoire, fustigeant ces prétendus cosmopolites qui se vantent d'aimer tout le monde pour avoir le droit de n'aimer personne. Dans ce contexte, la conception même de la citoyenneté devient un enjeu. Des critiques surgissent contre l'abstraction du citoyen qui arrache l'individu à la nature et à l'histoire, comme s'il n'existait aucune hiérarchie sociale et que la leçon de l'histoire ne comptait pas. On assiste à la montée des droits subjectifs ou droits de l'individu, avec des exigences qualifiées de citoyennes qui étaient naguère privées, droits sexuels, droits des enfants, affirmations éthiques ou religieuses originales. Cet individualisme démocratique affaiblit forcément les institutions politiques et sociales, écoles, syndicats, églises, partis. Chaque individu, même un élève, juge légitime d'en appeler à ses droits ou à ses convictions pour refuser de se soumettre à l'autorité. Et d'une façon générale, la question porte sur la compatibilité entre citoyenneté et société ouverte, quand nos droits à la culture et à l'identité s'affichent comme divergents des valeurs et des traditions partagées. Cette situation a touché l'école, qui est tiraillée entre ces deux tendances. D'un côté, elle est soucieuse de l'éveil des consciences. De l'autre, elle doit résister à la puissance de l'opinion. délivrer les jeunes des subordinations culturelles du moment, assurer une cohérence du savoir, garantir l'unité de ce qui se transmet. Face au pouvoir des émotions, des idéologies et des modes, l'enseignement doit rester un contre-pouvoir. Mais si l'on veut que l'école joue pleinement ce rôle d'unificatrice de la communauté civique et nationale, encore faudrait-il qu'elle garantisse la justice sociale et l'égalité des chances. Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Une enquête sociologique sur la perception des inégalités et le sentiment de justice a été menée récemment par le groupe d'études et des méthodes de l'analyse sociologique à la Sorbonne, le GEMAS, avec le soutien de l'Académie des sciences morales et politiques. Que nous dit cette enquête très riche ? Je ne citerai qu'un chiffre et un fait. Le fait d'abord, il est positif. La qualité des établissements scolaires n'est citée qu'en fin de classement des causes d'inégalité sociale liées à l'école. Et le chiffre, il est nettement plus inquiétant. 36% des Français interrogés jugent les inégalités scolaires très fortes. Pourtant, depuis Jules Ferry, la République n'a pas été avare de ses énergies. Et si nous considérons seulement les 50 dernières années, le chemin parcouru est immense. Nous avons relevé un défi historique, celui d'avoir ouvert la voie des études à ceux qui n'étaient pas des héritiers, d'avoir accueilli le flot des enfants du baby-boom en construisant certaines années jusqu'à un collège par jour, d'avoir multiplié par 12 la proportion de bacheliers d'une classe d'âge, 5% en 1960, plus de 65% aujourd'hui. L'école reste le premier budget de la nation. La dépense scolaire de l'État représente le quart de son budget et plus d'un fonctionnaire sur deux. Mais une chose est sûre, si l'école a réussi à scolariser tout le monde, elle a échoué dans sa mission d'intégration et de promotion. La massification n'est pas la démocratisation. Les chiffres publiés par l'OCDE l'ont démontré. Parmi une trentaine de pays comparables, nous nous classons désormais médiocrement. La France est 10e en culture mathématique, 14e pour la compréhension écrite. Et une partie de l'enquête dite PISA, le programme international pour le suivi des acquis des élèves, porte sur le lien entre le milieu socio-économique et les performances des élèves dans la compréhension de l'écrit. Pour l'ensemble des pays de l'OCDE, un élève issu d'un milieu privilégié devance son camarade issu d'un milieu moins favorisé de 38 points, soit l'équivalent de plus d'une année d'études. Pour la France, l'écart est de 50 points, c'est-à-dire bien supérieur à la moyenne des pays concernés. Il faut donc se rendre à l'évidence. Le premier facteur de réussite scolaire pour un enfant reste son milieu familial. Le niveau d'études de ses parents, de sa mère en particulier, joue un rôle décisif. Les hiérarchies sociales et culturelles se reproduisent très tôt, selon les types d'établissements, de classes, de filières. Le nombre d'enfants issus des milieux défavorisés qui accèdent aux études supérieures ou aux grandes écoles ne cesse de diminuer. Si les initiés tirent leur épingle du jeu, si l'école de la République ne permet pas le brassage social, si elle ne joue pas son rôle de promotion sociale et culturelle, qui s'en chargera ? Je suis profondément persuadé que l'enjeu de la justice sociale à l'école et par l'école est indispensable du socle commun d'enseignement qu'il faut sans cesse réaffirmer et consolider. Certes, au collège, tous les élèves ne peuvent avoir le même profil ni les mêmes aspirations. Viser à 100% de qualification de chaque classe d'âge, c'est forcément vouloir des parcours différenciés. Il vaut mieux que certains jeunes de moins de 15 ans puissent rejoindre l'apprentissage et des formations en alternance au lieu d'être maintenus contre leur gré dans des carcans généralistes qui les désespèrent. Mais c'est avant le collège que tout se joue. Vu l'effort considérable que la nation consente au bénéfice de l'école, elle ne peut accepter que tant d'élèves arrivent au seuil de l'adolescence sans la culture commune, sans les connaissances et sans les compétences fondamentales. Au fond, chacun sait l'objectif premier. C'est qu'aucun élève n'entre plus en sixième sans savoir lire, écrire et compter. Tout le monde l'a dit. C'est cependant aujourd'hui le cas d'un quart des jeunes Français. La priorité absolue, c'est la guerre contre l'illettrisme. L'apprentissage renforcé de la lecture, le repérage précoce des élèves en difficulté, tout le reste passe au second plan. Faut-il rappeler que la pensée gagne en précision et que le vocabulaire gagne en variété et qu'à l'inverse, la pensée dépérit ou les mots manquent. Faut-il rappeler que chaque nuance sentie, chaque mot appris est un talent bien placé, et qu'à l'inverse, l'intelligence languit quand la langue est indigente. L'apprentissage sans faille de la lecture et de l'écriture est essentiel à la formation intellectuelle. Il y a 2 ans, ici même, sous cette coupole, Jacqueline de Romilly nous le redisait. Je cite, « C'est grâce à la littérature que se forme presque toute notre idée de la vie. Le détour par les textes conduit directement à la formation de l'homme. Il nous apporte les analyses et les idées, mais aussi les images, les personnages, les mythes et les rêves qui se sont succédés dans l'esprit des hommes. Ils nous ont un jour émus parce qu'ils étaient exprimés ou décrits avec force, et c'est de cette expérience que se nourrit la nôtre. » Priver les enfants de l'accès aux richesses de la langue, c'est les condamner à vivre en marge de la société et de la nation. Et si qu'ils n'ont pas eu le français pour langue maternelle, c'est même les enfermer dans un ghetto, d'où, nous le savons bien, ils ne sortiront guère ou qu'avec beaucoup de peine. Au contraire, la maîtrise d'une langue, c'est-à-dire le bon usage de notre langue, est encore le meilleur moyen d'abattre les murs de nos ghettos. Apprendre à lire, à écrire et compter. Je voudrais ajouter apprendre à parler. Apprendre aux jeunes à bien parler. Le fond et la forme sont inséparables. 2000 ans de culture rhétorique nous l'ont appris. Fond inséparable et associé à l'art de bien dire, à l'art de bien penser. Les anciens faisaient le cœur de la formation du citoyen, de l'homme libre, capable d'argumenter, de choisir dans le sens du bien commun, de cet art de bien dire. Formation élitiste que tout cela, me dira-t-on ? Rien n'est plus faux. Quintilien a réfuté cet argument depuis longtemps, dès le premier chapitre de son « Institution oratoire », écoutons-le encore. J'entends dire tous les jours qu'il y a fort peu d'hommes en état de bien comprendre ce qu'on leur enseigne et que la plupart, faute d'intelligence, y perdent leur temps et leur peine. Cette plainte n'est pas fondée. On en rencontre au contraire beaucoup qui ont autant de facilité à imaginer que de promptitude à apprendre, car cela est dans notre nature et même de même que l'oiseau est né pour voler et le cheval pour courir, la bête féroce pour se repaître de carnage, de même, l'homme est né pour exercer sans cesse sa pensée. Peu de lectures aussi revigorantes que ces pages lumineuses si confiantes dans la nature humaine. Oui, ce passé, ce vieux passé, c'est encore le présent et c'est ce que notre présent a besoin de connaître. Ce vieux passé, ce sera encore le futur, tant que notre futur connaîtra son intérêt. L'unité de la société française dépend de l'aptitude de son école à garantir l'unité de son enseignement, principalement le socle commun de connaissances. Telle est la voie du redressement. Les obstacles ne manquent pas. Mon parcours personnel m'a donné l'occasion de les observer de près, mais il m'a appris aussi à ne pas les surestimer. Le premier obstacle vient de la difficulté à réformer l'école. C'est indéniable, mais n'est-ce pas aussi parce qu'on en a trop réformé ? Les réformes ont à peine le temps d'arriver jusqu'aux établissements qu'elles sont déjà remplacées par les suivantes. Entre le train des réformes et le train des mesures, entre le tableau des arrivées et le tableau des départs, c'est la gare de Lyon à l'heure de pointe. Il y a quelque chose de malhonnête à vouloir soumettre les enfants à toutes sortes d'expériences. Pour réformer, il faut avoir en tête que le temps de l'école ne se confond pas avec le passage d'un homme dans un ministère. C'est un temps long, qui demande la stabilité, qui demande que l'on préfère ce qui est juste à ce qui est neuf. Le second obstacle vient de la centralisation et de l'ordre bureaucratique. Je ne crois pas que ce soit une fatalité, tous les spécialistes de l'école le disent désormais, quel que soit leur horizon de pensée. Aucune réforme, si parfaite qu'en soit sa conception, ne peut prétendre épouser l'extrême variété des situations. Car tout se gagne sur le terrain, au cœur des classes. Les établissements scolaires doivent respirer à leur rythme, se sentir responsables, inciter à l'initiative. C'est à eux de choisir leurs moyens, notamment pédagogiques, d'atteindre les objectifs nationaux, des établissements plus autonomes, où le pragmatisme l'emporterait sur l'idéologie, ne remettront pas en cause le caractère national de notre système éducatif. Ils feront au contraire confiance aux femmes et aux hommes de terrain, proches des élus, des associations, des entreprises qui les entourent. Ils savent mieux que quiconque comment agir en fonction du contexte local, de la diversité des élèves, des attentes des parents. Ils sont les mieux à même de sortir l'école de son isolement et pour cela, de lui trouver des alliés. car l'école ne peut réussir toute seule. Les principaux alliés doivent être les parents d'élèves. On parle beaucoup de la crise de la famille. Laissez imaginer que de nombreux enfants seraient comme livrés à eux-mêmes. Ce n'est pas le cas, fort heureusement. L'immense majorité des enfants ont une famille, recomposée ou non, sur laquelle ils peuvent compter. C'est à elle que l'école doit s'adresser, afin que parents et enseignants puissent, sur l'essentiel, parler d'une seule voix. Les parents d'élèves qui trop souvent critiquent les enseignants se rendent-ils compte à quel point ils se jugent eux-mêmes en croyant les juger ? On pourrait aussi évoquer la politique de la ville. Comment croire à des règles dans un espace urbain déréglé, illisible, sans contours bien définis ? C'est donc un vaste réseau de solidarité qu'il faut tisser autour de l'école, celle-ci restant cependant au centre, afin que petit à petit les choses reprennent sens et que soit repoussé le spectre d'une dislocation. Car en dernière analyse, c'est bien dans la classe que se joue l'échec ou le succès de l'enseignement. C'est là que le maître donne les outils du savoir, les objectifs à atteindre, le désir de connaître. Rendons leur honneur au maître et au professeur. N'oublions pas cet enjeu considérable. Au moment où se prépare un renouvellement massif du corps enseignant, dans les années qui viennent, la moitié des professeurs partiront à la retraite. La revalorisation de la fonction enseignante passe par la conscience retrouvée du rôle social éminent du professeur. C'est pourquoi chaque citoyen doit veiller à ce que les enseignants soient respectés. De son côté, la nation doit valoriser le mérite et l'engagement de chacun en soutenant en termes de salaire et de déroulement de carrière ceux qui s'engagent durablement, notamment dans les quartiers difficiles. Chers confrères, mesdames et messieurs, dans la mémoire de chacun de nous brille le souvenir d'un instituteur, d'un professeur, qui nous a stimulés, qui nous a exaucés. Dans un monde plus ouvert, mais aussi plus incertain, il est celui qui transmet des savoirs, qui construit des repères, qui détecte des talents, qui aide à les épanouir. Il a vocation à être ce premier homme dont Camus avait gardé la mémoire à qui il devait tant. Être le premier homme non seulement pour de bons élèves, mais aussi sur lui pour qui en a le plus besoin. Être le premier homme pour le dernier de la classe. Le rôle du professeur n'est pas d'indiquer à l'élève un seul horizon, celui de la réussite scolaire, puisque l'étude est vaine sans la conscience qui l'accompagne et sans l'action à laquelle elle prépare. Pas davantage d'être un héros, même s'il est parfois, ni un maître à penser envahissant et exclusif. Son rôle est d'établir, d'instruire, d'instituer l'humanité dans l'homme en devenant, aux yeux d'élèves, un exemple. C'est assez. À bien y regarder, c'est même beaucoup. Le ministère de l'Éducation nationale est celui du destin. De quel sujet la nation doit-elle se saisir en toute priorité, sinon de celui-là ? Car il n'y a pas de démocratie solide sans cohésion nationale, et il n'y a pas de cohésion nationale sans un socle commun de connaissances scolaires fondamentales, garant de la justice sociale. Si l'unité de la société française résiste aux doutes qui s'emparent d'elle, c'est à l'école qu'elle devra. Si l'école résiste aux tensions qui la traversent et qu'on lui fait porter, c'est au dévouement des professeurs qu'elle le devra. C'est pourquoi nul ne peut concevoir la défense de l'école qu'en lui donnant pour principe le respect de l'élève et la grandeur des maîtres. Ce n'est pas une spéculation de principe, ce n'est pas une vaine espérance. On touche ici à un enjeu premier et vital. Pour que ne se grippe pas l'incessante noria des générations, celles qui forment dans l'histoire la continuité et la grandeur d'une nation.
Canal Academy vous invite à écouter l'intégralité de l'émission « Les nouveaux défis de l'éducation ». À l'occasion de la séance interacadémique exceptionnelle, vous retrouverez les discours de Michel Serres de l'Académie française et de Pierre Léna de l'Académie des sciences. Rendez-vous sous la coupole.